Radio Starbucks.
Morning edition from NPR
News.
France Inter, le 18-20.
Et la première escale d'un jour dans le monde nous emmène à Gaza. Ce soir, Gaza qui voit peut-être le retour de l'autorité palestinienne. C'est une forme de réconciliation et on vous explique pourquoi ça a du sens. Cette idée aussi qui nous vient de Norvège. Et si on captait le dioxyde de carbone, puisqu'on n'arrive pas à cesser d'en émettre, pourquoi ne pas le stocker avant qu'il arrive dans l'atmosphère? C'est le feuilleton écolo de Sandy Dauphin. Nous sommes aussi en Belgique ce soir, 18h55. L'édito du journal Le Monde, signé Christophe Ayad en Turquie. Et nous sommes tout de suite avec une grande cinéaste américaine.
Fabienne Saint-Fès. Un jour dans le monde.
Here in Detroit, a city of war, violence continues.
We've made state police and national guardsmen available.
I'm declaring a public state of emergency.
It's a war zone out there. They're destroying the city.
Police!
I'm just going to assume you're all criminals.
C'est la bande-annonce du film Détroit que vous venez d'entendre. Détroit, le film événement de Catherine Bigelow qu'on a eu la chance de rencontrer pour Un jour dans le monde avec Eva Bettan. Bonsoir Eva.
Bonsoir.
Et avant de l'entendre, Catherine Bigelow, Eva, on va d'abord rappeler que ses derniers films marquants, c'était Zero Dark Thirty, c'était
Le Trac de Bladen.
Exactement, de Hurt Locker, Des Mineurs, pour lequel elle a été oscarisée, meilleure réalisatrice, première femme, meilleur film surtout. Un mot sur ce film, Eva, Détroit, qui parle d'une Amérique plus qu'actuelle. C'est celle de ces jours-ci, là, maintenant, en fait.
Oui. Et en même temps, les événements se passent en 1967. Ce sont les émeutes de Détroit. Je vous dis d'abord que c'est du grand cinéma. Et parce que c'est du grand cinéma, c'est de la bonne politique. Ça démarre avec une petite chose, un contrôle dans une boîte. Et puis, ça commence à monter. Et puis, pendant un moment dans le film, vous êtes tantôt là. Vous dites, tiens, c'est bizarre, il n'y a pas de personnage principal. Et puis, presque naturellement, ils sortent. C'est un groupe de jeunes musiciens noirs, pas du tout des émeutiers. Ils vont se réfugier dans un hôtel. Et à un moment donné, vous vous dites, mais attendez, le cœur du film, il est là. Il y a des policiers qui font passer une nuit épouvantable à ces jeunes noirs, qui ne sont pas des militants, qui ne sont pas des métiers, qui sont des gens comme ça. Il y a même aussi des fêtards dans cet hôtel. Et elle vous met quasiment en temps réel. Et c'est extrêmement important parce que c'est du cinéma de la sensation. C'est-à-dire que vous arrivez là à qu'est-ce qui fait le cœur du racisme.
Et justement, c'est évidemment les questions qu'on a posées à Catherine Bigelow, qu'on a rencontrées, on va tout vous dire, en fin de semaine dernière. Le film est sorti aux États-Unis, c'était ça évidemment notre première question, en même temps, mais en même temps que les émeutes de Charlottesville.
Well, it was striking for those reasons exactly.
Oui, ça nous a frappé, nous aussi, pour toutes ces raisons. Je suis continuellement choquée par l'inégalité raciale en Amérique, et même dans le monde entier. Et c'est ce qui m'a motivée pour faire ce film. Je voulais amener une conversation sur l'inégalité raciale, l'oppression et l'injustice raciale. Et clairement, l'histoire du film, qui date d'il y a 50 ans, clairement, nous n'avons pas fait de progrès significatifs. Cette histoire pourrait aussi bien avoir lieu aujourd'hui, quand vous regardez ce qui s'est passé à Charlottesville. Comme le dit Heather Heyer, qui a été tuée à Charlottesville. Si vous n'êtes pas scandalisé, c'est que vous n'y faites pas attention. Je crois vraiment ça.
Mais est-ce que vous avez le sentiment justement que faire ce film, et dans le contexte dont vous parlez, permet de penser ces plaies-là? Ou est-ce que le risque n'est pas aussi d'en ouvrir d'autres? Et aujourd'hui, dans cette Amérique-là, on en est où? Est-ce qu'on pense les plaies ou est-ce qu'on les ouvre?
Vous avez raison, ça marche dans les deux sens à chaque fois. Tout ce que j'espère, c'est que le film va amener cette conversation qui pourra au final soigner les blessures. Pendant qu'on tournait, nous avions le très fort sentiment qu'il fallait atteindre cet objectif. Le sentiment que cette histoire devait être racontée, que cette conversation était incroyablement importante et particulièrement pour les États-Unis. Nous avons besoin de lutter contre le racisme institutionnalisé, avec force, avec agressivité, surtout avec efficacité.
Vous avez le sentiment d'avoir une responsabilité, vous, quand on est cinéaste, dans cette Amérique-là et sur ces événements-là?
Ce film a un très gros potentiel journalistique. Il peut aussi créer de l'empathie. Humaniser une situation qui, pour beaucoup d'entre nous, est impossible à imaginer. Donc si on y parvient à humaniser, peut-être que c'est une opportunité d'éradiquer complètement des problèmes de ce genre. pour que ça ne se reproduise jamais. C'est
bien ça. Eva,
vos films précédents, The Hurt Lockers ou bien Zero Dark Thirty, étaient liés à la politique, puisque l'un se passait en Irak, l'autre c'est la traque de Ben Laden. Mais j'ai l'impression que celui-ci, pourtant, qui parle d'événements remontant à 50 ans, est votre film plus directement politique, ou plus directement vous dites « je m'engage ».
Well, certainly, I think
c'est
it's,
certainement un sujet éminemment politique, très contemporain aussi, dans l'Amérique d'aujourd'hui.
To America today, especially look at
encore une fois, regardez ce qui s'est passé à Charlottesville. Regardez l'inégalité dans laquelle on baigne tous les jours. C'est douloureux. Je crois que cette conversation est obligatoire. Et dans ce sens, c'est très politique.
Pour nous, Européens, vous êtes une intellectuelle. Vous avez commencé en étant par la peinture. Vous avez côtoyé Suzanne Sontag, Mapplethorpe, des gens. Et en même temps, vous faites des films d'action, des films viscéraux. Je voudrais que vous m'expliquiez ce lien qu'il y a dans la manière dont vous faites ce cinéma.
Oh, well, thank you. That's very
merci.
Humbling.
Je suis I'm très honorée que vous disiez ça. Ça me rend très humble. Pour moi, un film est une stratégie. Une stratégie pour transmettre une information, avoir un impact et créer une dynamique sociale. Et quand vous regardez les choses comme ça, c'est très politique. Je sais que le travail que je faisais quand j'étais dans le monde des arts plastiques était très politique. Mais maintenant, les problèmes sont plus aigus. Et je préfère parler d'histoires et d'injustices qui sont importantes pour moi. Le pur divertissement n'est pas suffisant. C'est un des aspects, mais c'est pas assez. Nous sommes des êtres politiques, socialement conscients.
We're political beings, we're socially aware. I think to do
ne rien faire n'est pas une option. J'utilise le médium qui est le mien, comme vous le faites, vous, et d'une certaine façon, nous faisons la même chose. Nous sommes des fournisseurs d'informations qui peuvent soulager, être productives, progressives et humanisées.
Il y a une scène, je ne peux pas en dire trop parce qu'il faut laisser les gens découvrir le film, qui est le cœur de votre film, qui est une nuit horrible dans un hôtel où des policiers blancs font subir un traitement terrible à des Noirs qu'ils soupçonnent d'avoir tiré au moment de ces émeutes. Vous nous mettez au cœur de la scène, c'est-à-dire qu'à un moment donné, on aimerait ne pas regarder et on ne peut pas s'empêcher de regarder. Qu'est-ce que vous faites concrètement? Qu'est-ce que vous attendez de moi? Que je ressente ce qu'il ressent?
Well, I suppose,
je suppose que j'attends de ceux qui regardent autant que j'attends de moi-même un désir de compréhension, de compassion, de tolérance, d'universalité, en gros, un désir de changement sociaux. Par exemple, James Baldwin. Il a dit quelque chose de formidable. Il a dit « Rien ne peut changer tant qu'on ne l'a pas regardé en face ». Donc vous regardez ça sans filtre, en espérant que ça va créer une compréhension, que ça va amener un dialogue constructif et possiblement un changement. Je crois très fermement que l'objectif de l'art, c'est bousculer pour que les choses changent. C'est pour moi le but de ce film.
Mais vous passez par le viscéral pour arriver au cerveau.
Tout ça est connecté d'une certaine façon. Il faut que ce soit connecté. C'est une expérience physique et une expérience émotionnelle, intellectuelle. C'est de là que vient l'empathie. La compréhension réelle, la compréhension émotionnelle et intellectuelle.
Catherine Bigelow, moi, j'ai le sentiment, vous m'arrêterez si je me trompe, que l'Amérique a toujours cherché quels étaient ses repères fondamentaux pour se forger l'identité qui est celle de l'Amérique. Est-ce que vous avez le sentiment qu'aujourd'hui, on est en train de le perdre, ça, le pays est en train de le perdre, et que peut-être des films comme le vôtre permettent aussi de retrouver cette identité?
Je ne peux qu'espérer ça. Vous savez, nous sommes à la dérive politiquement, culturellement et socialement. Mais peut-être qu'il faut s'en saisir justement pour nous galvaniser, être plus résilients. C'est aujourd'hui qu'on doit préparer un futur meilleur.
Parce que comment vous vous sentez, vous, dans cette Amérique d'aujourd'hui ? Est-ce que vous vous sentez parfois, quand vous la voyez, étrangère à votre propre pays ?
Oui, tous les jours.
It's maddening, it's saddening,
c'est fou, c'est triste, c'est...
It's such a departure from the America that I longed for and the America under Barack Obama. I felt so proud.
Je me sentais si fière d'avoir Barack Obama comme président.
I felt we were entering,
je pensais qu'on entrait dans un monde post-racial. Et qu'on pouvait se concentrer sur la pauvreté, les inégalités économiques. Et c'est tellement pas ce qui se passe. En avançant, en reculant, nos divisions sont plus grandes que jamais.
Dans vos rêves, vous auriez aimé que... Il se passe quoi en Amérique après votre film, qu'il y ait un débat intellectuel, que des jeunes réagissent ? Est-ce qu'il y a eu ce que vous rêviez ? J'ai un peu peur de la réponse.
Il y a beaucoup de dialogues. Une chose, par exemple... Il y a eu une projection du film au département d'État. Et beaucoup d'élus ont vu le film précisément parce qu'il y a un projet de loi en cours pour faire cesser le délit de faciès. Ce film, au moins, stimule le dialogue pour que cette loi passe. Donc il y a, oui, des éléments positifs, mais j'aimerais en voir plus.
I'd like to see far more.
Thank you very much.
Thank you.
Thank you very much.
Thank you. Thank you. Thank you.
Merci, merci. On s'est tous beaucoup remerciés. Formidable, Catherine Bigelow. En tout cas, en un mot, Eva, juste pour finir, vraiment quelques secondes, cette conversation dont elle parle, Catherine Bigelow, qu'elle souhaitait, honnêtement, elle n'a pas eu lieu aux États-Unis.
Je ne suis pas une spécialiste de l'Amérique. Il ne semble pas aider dans ce qu'elle dit, on le comprend. Il n'y a pas eu le grand, grand débat. Mais ça dit quelque chose de l'époque, parce que voilà un film qui est fait par une femme, blanche, oscarisée. Et en fait, quand elle fait un film sur les émeutes de Détroit, sur le racisme, elle s'adresse aux Blancs, puisque le racisme vient d'eux. Or, on est dans une Amérique, au lieu que ce soit un grand débat, on est allé sur des choses périphériques et pas sur le fond. Et je pense que ça dit quelque chose de l'époque.
Eva Bétan, merci mille fois. Merci aussi à Catherine Bigelow, bien sûr, dans Un jour dans le monde.
France Inter, le 18-20.
Et la suite d'Un jour dans le monde à Gaza ce soir avec Étienne Monin en Norvège, avec vous Sandy Dauphin.
Eh oui, piéger le CO2 avant qu'il ne s'échappe dans l'atmosphère. Est-ce que c'est une bonne solution pour le climat ? En tout cas, il y a un projet en Norvège.
Eh bien écoutez, vous allez nous le raconter, ce projet de capter le CO2 avant qu'il arrive dans l'atmosphère. C'est le feuilleton écolo du mardi. À tout de suite, 18h55, l'édito du journal Le Monde. C'est Christophe Ayad ce soir avec cette question. La Turquie est-elle encore l'allié de l'Occident ? À tout de suite. LCD Sound System, Tonight sur France Inter.
Everybody sing the same song. It goes tonight, 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 tonight. I never realized these artists thought so much about dying. But truth be told, we all have the same end. Could make you cry, 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 cry. But I'm telling you, this is the best news you're getting all week. Oh, sure, it's ruling the airwaves. What remains of the airwaves? And we're frankly thankful for the market psychology you're hipping us to. Is everybody feeling the same stuff? We're all wild, except for you. And you know who you are. This is a love song. And you're getting older. I promise you this, you're getting older. And there's improvements in less. You're such a winner. That the future's a nightmare. And there's nothing I can do. Nothing anyone can do about this. I'm offering you a chance to get even. But
Magic FM.
This
interview please for
60 minutes.
Sous les radars, c'est le chemin emprunté tous les soirs par Florence Paracolos qui est très souple pour vous emmener vers l'actualité internationale qui vous a échappé. Florence, on commence avec la Grèce et son nouveau truc pour lutter contre la fraude fiscale.
En Grèce, Fabienne, on n'a pas assez de contribuables honnêtes, mais on a des idées. La dernière, c'est une loterie mensuelle qu'un de nos confrères grecs est en train d'expliquer. Les tickets de cette loterie, ce sera les reçus des achats par carte bancaire. Bah oui, qui dit facture, dit déclaration. Déclaration des commerçants, donc TVA et impôt sur le revenu dans les caisses de l'État, dans un pays où le paiement en liquide est roi et où la fraude fiscale coûte des milliards d'euros à l'économie. 45%, entendez-vous, 45% des professions libérales ne déclarent pas leurs revenus, c'est ce que dit une récente étude de l'Université de Luxembourg. Le premier tirage de ce loto fiscal aura lieu à la fin du mois. Il y aura 1000 gagnants de 1000 euros tous les mois. L'astuce a déjà été essayée au Portugal il y a 3 ans, ça a bien marché. Les recettes de TVA ont progressé de 4%, deux fois plus que la consommation. Là, on verra si les Grecs jouent le jeu. Avant de retrouver leur indépendance économique l'été prochain, ce sera la fin des plans de sauvegarde de l'Europe et du FMI qui laissent un pays où la croissance est revenue, mais où le chômage est encore massif.
Au Japon, Florence, dans la série « Mieux vaut tard que jamais », des excuses avec 4 ans de retard.
NHK によりますと...
C'est la chaîne de télé publique NHK qui s'est excusée il y a quelques jours auprès des parents de Miwa Sado. Miwa Sado, elle était journaliste politique, elle avait 31 ans quand on l'a retrouvée morte d'un malaise cardiaque dans son lit en 2013. Elle venait d'enchaîner 159 heures supplémentaires dans le mois avec seulement 2 jours de repos. La chaîne NHK aura donc mis 4 ans avant de reconnaître les faits sous la pression des parents de la jeune fille pour que cela ne se reproduise plus. NHK était mal à l'aise sur le sujet parce qu'elle avait elle-même beaucoup traité de cas similaires, de surmenage dans d'autres entreprises. C'est toujours ce qui se passe quand dans notre entreprise on fait les mêmes choses qu'ailleurs. Le phénomène porte un nom au Japon, le karoshi ou la mort par le travail. Le dernier cas médiatisé, c'est celui d'un employé d'une entreprise de construction sur le chantier du stade olympique de Tokyo, retrouvé mort en juillet après 200 heures supplémentaires dans le mois. Il s'est suicidé, celui-là, en laissant un mot pour dire qu'il avait atteint la limite physique et mentale. Un Japonais sur 5 risquent de mourir de surmenage au travail, selon un rapport remis l'an dernier au Premier ministre. Le Premier ministre qui a depuis diffusé une liste noire de 300 entreprises dangereuses.
Allez Florence, tiens, sans transition, vous allez nous parler d'un fruit.
Un fruit particulier, il faut le dire.
Most people think this fruit smells terrible.
Holy smoke!
Caille, 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 caille. Ce fruit qui pue, Fabienne, c'est le durian.
Un vrai fruit, hein.
Un gros fruit asiatique dont l'enveloppe est hérissée de pics, connu pour son odeur nauséabonde de vieux pieds, mais aussi pour sa chair délicate. Le naturaliste Alfred Wallace l'a décrite au 19e siècle comme une crème riche aux amandes avec des notes de fromage, sauce aux oignons et de vin. Si on en parle aujourd'hui, Fabienne, c'est pas parce qu'on fait dans la gastronomie, dans un jour dans le monde. C'est parce que les scientifiques, vous devriez d'ailleurs peut-être, c'est parce que les scientifiques ont séquencé le génome du durian et qu'ils ont notamment isolé le gène qui pue du durian. À quoi ça sert, me direz-vous? Pourra-t-on enlever un jour ce gène qui fait que le durian est interdit dans certains lieux publics en Asie? Des panneaux le bannissent des hôtels ou des aéroports. Garder le goût mais pas l'odeur, ce serait chouette. Eh ben non, ça n'est pas le but de la manœuvre. Les scientifiques de Singapour, de Hong Kong et de Malaisie l'ont séquencé, ce durian, pour mieux comprendre la biodiversité de ce fruit dont certaines espèces, c'est ce qu'on apprend, sont menacées.
Voilà. Ben écoutez, on en apprend tous les jours grâce à vous.
L'odeur et le goût.
Et ben, c'est tant mieux, non? C'est comme ça que ça marche normalement avec le durian. Ceci dit, j'ai jamais essayé. Tiens, vous nous en amènerez un dans un jour dans le monde, un de ces jours. Allez, merci Florence.
France Inter, Fabienne Saint-Ès, un jour dans le monde.
Et ce soir, nous sommes à Gaza. À Gaza, avec une histoire de réconciliation, ou peut-être en tout cas. Bonsoir Étienne Monin.
Bonsoir Fabienne.
Correspondant de France Inter à Jérusalem. Étienne, on sait que Gaza est dirigé par le Hamas, qui est en conflit avec l'autorité palestinienne, et ça ne date pas d'hier, mais peut-être que tout cela est doucement en train de changer. Le Premier ministre palestinien a fait un stop de 24 heures à Gaza, et le Hamas
a promis de lui donner les clés de l'administration.
Et depuis, les frères ennemis de Palestine entament un processus d'union. Cette réconciliation est aussi fragile qu'importante. À Gaza, elle permettrait d'infléchir la courbe montante du déclin social, économique et humanitaire qui est accentué par les divisions. D'où un premier indicateur autour de la visite du Premier ministre, l'immense attente dans la population à Gaza.
Et cette immense attente, on l'entend, on l'écoute dans votre reportage, Étienne, à Gaza.
Quand le Premier ministre palestinien descend de sa BMW noire au poste frontière, il est ceinturé par une foule chauffée à blanc. L'accueil est digne d'un chef d'État. Il a valeur de message. Il témoigne des attentes de la population, du désir de normalité, dit Sharifa El-Fara, vieille dame assise à côté de la foule.
On espère que la Palestine va devenir comme les autres pays arabes. Notre pays mérite cela, et cela passe par la réconciliation.
La division palestinienne est l'un des éléments qui accentue la sclérose économique, sociale et humanitaire de Gaza, soumise au blocus israélien. Au printemps, l'autorité palestinienne de Ramallah a donné un violent tour de vis financier qui participe à l'étranglement du Hamas et de la population. Recoudre les morceaux, c'est reconstruire un avenir, explique Daïla Amro. Elle appartient à la classe moyenne supérieure et à cette jeune génération diplômée laissée en marge de l'activité.
On voit enfin une lumière dans le tunnel. On se dit que c'est le bon moment cette fois pour réussir la réconciliation et l'unité palestinienne. Donc oui, il y a de l'espoir de notre côté. Avec les échecs précédents, on a perdu beaucoup d'années. Ça touche notre futur, ça touche nos espoirs de carrière. Mais cette fois, on y croit, surtout parce qu'il y a une nouvelle direction au sein du Hamas.
Ça n'est pas la première tentative. Plusieurs accords ont déjà été signés dans le passé. La réconciliation est un chemin épineux traversé par les images d'une guerre interne dans les années 2000 qui a tué plus de 350 Palestiniens. L'espoir est cette fois alimenté par deux paramètres nouveaux dont l'un se voit sur les affiches brandies par des jeunes, le portrait du président égyptien Abdel Fattah El-Sissi.
On voulait dire merci à Sissi, grâce à qui la réconciliation va avoir lieu.
L'ennemi des frères musulmans est aujourd'hui le parrain de cette initiative, capable par son poids de changer le cours de l'histoire, estime le politologue Naji Chourab.
Le rôle de l'Égypte a été décisif. Je pense que l'Égypte a beaucoup d'outils, beaucoup de cartes en main pour faire jouer son influence sur le Hamas et sur le président palestinien Abou Mazen, et l'Égypte veut jouer un rôle régional important.
L'autre homme fort est le leader du Hamas à Gaza. Yahya Sinwar appartient à la nouvelle direction du mouvement qui a pris les rênes en début d'année. Il a la volonté et les moyens de créer l'unité, explique le chercheur Mouremar Abou Saad.
Il est considéré comme quelqu'un de très déterminé, de très courageux. Il prend des décisions sans même prendre l'avis des autres dirigeants du Hamas. Et il a très clairement fait savoir qu'il ne laisserait personne saboter ou retarder les efforts palestiniens de réconciliation. Et je crois que son message a été entendu par les dirigeants du Hamas et par les niveaux en dessous, qui respecte bien plus sa volonté de réconciliation avec les Palestiniens.
La semaine dernière, le Premier ministre a pris symboliquement les clés de l'administration à Gaza. Cette semaine, le Hamas et le Fatah, le parti du président palestinien, se retrouvent sur terrain neutre au Caire pour aborder les sujets sensibles qui touchent notamment à la sécurité. Un point apparaît d'ores et déjà conflictuel. Le Hamas veut garder sa milice armée et c'est non négociable, dit le porte-parole Azam Qassem.
Les leaders de la résistance, ceux du Hamas et des autres factions, sont d'accord pour dire qu'on est toujours sous occupation, qu'on vit toujours sous blocus. Donc on doit garder nos armes pour protéger notre nation. Les armes qui sont à Gaza, on a prouvé qu'elles étaient là pour protéger la nation. Ces armes ne servent pas dans la situation interne de Gaza. Elles servent juste à protéger la Palestine de tout ce qui pourrait venir de l'extérieur. Depuis que ces armes sont à Gaza, il n'y a pas eu de problème de sécurité.
À Ramallah, siège du gouvernement, la mutation du Hamas ne convainc pas. Hassan Khatib est un très bon connaisseur de la vie politique palestinienne. Il pense que cette affaire est un piège tendu par le Hamas aux dirigeants palestiniens.
Je pense que c'est seulement une tactique. Le Hamas ne va pas lâcher le contrôle sécuritaire ni le contrôle politique. Je pense qu'ils veulent aller vers le modèle libanais. Ils veulent maintenir leur appareil sécuritaire sur toute la bande de Gaza, mais ils veulent laisser le fardeau des ordures, de l'éducation, de la santé à un autre. Tout ce qui coûte cher et qui nuit à son image.
L'ONU soutient cette réconciliation. Israël, après plusieurs jours de silence, la rejette. Le Premier ministre considère que les conditions ne sont pas réunies. Il exige, entre autres, du Hamas le désarmement et la reconnaissance de l'État d'Israël.
Étienne Monin, à Gaza, pour Un jour dans le monde. Merci.
So tragic, probably 44 moons or more. And I don't wanna count how many days I've been dragged all around the floor. And I don't wanna be a bad man, but I'm a bad man just the same. You know, we got no time for games.
I got the blue magic, and I rock you so savage, 'cause I got the blue magic. So savage, 'cause I got the blue magic. I got blue automatic on my first trip around the sun. Now I got the blue in Spanish, and I'm always on the run. And I don't wanna be a bad man, but I'm a bad man just the same. Let me know if you can manage, 'cause I got no time for games. Yeah. I got the blue magic. So savage, 'cause I got the blue magic. Yeah, I got the blue magic. I got the blue magic. And I rock it so savage, 'cause I got the blue magic.
Sky for a sign. Never wanted to be a bad man, but I'm a bad man just the same. Let the sun do nothing else to do. We got no time for games.
Il s'appelle Son Little et la chanson c'est Blue Magic sur France Inter.
France Inter.
Climate change is real.
Fabienne Saint-Esse.
It is happening right now. Let us not take this planet for granted.
Un jour dans le monde.
L'actualité en série, le mardi, le feuilleton écolo d'un jour dans le monde avec vous, Sandy Dauphin, bonsoir.
Bonsoir.
Sandy, au dernier épisode, vous nous avez laissé avec le méthane qu'on essaye d'apprivoiser, le méthane émis par les animaux. Ce soir aussi, on essaie de capter ce qui nous pollue, en Norvège cette fois, et l'idée n'est pas bête. Puisqu'on ne peut pas réduire les émissions de dioxyde de carbone, pourquoi ne pas les attraper avant qu'elles ne touchent l'atmosphère? Et c'est Total, figurez-vous, qui annonce qu'il est partenaire d'un projet de stockage en mer du Nord.
Oui, c'est un projet financé par l'État norvégien. Alors, le principe est assez simple. Vous prenez de gros pollueurs, une cimenterie, une usine d'ammoniac, un incinérateur. Vous captez le CO2 qui sort de leur cheminée. Vous comprimez ce gaz, vous le transportez et puis vous le stockez sous terre, en l'occurrence sous mer, à 1000 mètres de profondeur en mer du Nord. Alors pour l'instant il s'agit d'un démonstrateur, il faut montrer au monde que cela fonctionne. L'objectif est de stocker 1,5 million de tonnes de CO2 par an.
On en fait des conserves quoi, si je comprends bien. En gros, et l'intérêt pour Total?
Eh bien les groupes pétroliers ont déjà un savoir-faire en la matière puisqu'ils ont une bonne connaissance des sous-sols, ils possèdent des gisements vides qui peuvent servir de réservoir pour le CO2 et puis surtout, ils utilisent déjà des techniques de captage de CO2. Quand vous raclez le fond de votre pot de yaourt, vous prenez une cuillère, Fabienne.
Mmh, oui.
Eh bien, c'est le même, ou bien votre
ou mon doigt.
J'allais le dire. Eh bien, c'est un peu le même principe. Les pétroliers, eux, injectent du CO2 dans les gisements en fin de vie pour récupérer le pétrole resté au fond. Total a d'ailleurs mené une expérimentation près de Pau, sur le site gazier de Lac, entre 2010 et 2013. L'industriel avait capté 50 000 tonnes de CO2 à la sortie d'une chaudière de la plateforme. Le gaz avait été envoyé dans un gisement de gaz en fin d'utilisation. Et puis les pétroliers sont aussi que le vent tourne, ils sont pointés du doigt. La combustion des énergies fossiles, on le répète assez souvent, est la principale source de gaz à effet de serre. Les scientifiques disent qu'il faut laisser les trois quarts des énergies fossiles là où elles sont, sous terre, si l'on veut respecter les objectifs de l'accord de Paris sur le climat. Les pétroliers ont donc intérêt à montrer qu'ils cherchent des solutions. Peut-être qu'un jour aussi, piéger le CO2 et le stocker, ce sera une activité rentable.
Parce que pour l'instant, clairement, ça l'est pas.
Ah non, le captage de CO2, c'est très coûteux. Hein. Il faut extraire le dioxyde de carbone de la fumée. Alors, j'ai tout un truc, tout un tas de technologies. C'est très technique. Mais en tout cas, c'est cher. Ça nécessite beaucoup d'énergie. Entre 60 et 100 euros la tonne de CO2, d'après une étude menée par l'ADEME, l'Agence de la maîtrise de l'énergie en France. Pourquoi un cimentier s'équiperait-il avec une installation coûteuse si le fait de ne rien faire lui revient moins cher? C'est un peu la question. Il faut donc une incitation, d'où l'intérêt de ce fameux marché carbone en Europe. Il est moribond, autour de 7 euros la tonne de CO2 en ce moment. Ou bien une taxe carbone assez élevée pour que les industriels aient intérêt à aller vers des technologies plus propre. En 2010, l'Europe avait lancé un programme pour financer des projets de captage de CO2. 8 au total, dont un à Florange en Moselle, sur le site d'ArcelorMittal. Ça a été un flop, ils ont tous été abandonnés. Et puis, un dernier frein aussi, c'est le « où vous voulez, mais pas chez moi ».
Not in my backyard.
Bah exactement. Connaissez-vous beaucoup de personnes qui veulent habiter à côté d'un site de stockage de CO2? Les associations de défense de l'environnement mettent en avant le risque de fuite, mais aussi de pollution des nappes d'eau souterraines. En Norvège, justement, le nouveau projet avec Total, c'est le troisième du genre en Norvège, est situé offshore, loin de toute habitation.
Donc on a compris, hein, en vous écoutant, pourquoi il n'y avait pas beaucoup de candidats en Europe. On a une piste sur pourquoi c'est possible en Norvège, mais il y a d'autres raisons.
Ah oui, parce que cet État pétrolier a mis en place de fortes incitations depuis 20 ans, notamment une taxe carbone. L'État norvégien va d'ailleurs financer une bonne partie de ce nouveau projet avec Total. Et pourtant, piéger le CO2, c'est l'une des solutions prônées par l'Agence internationale de l'énergie, l'AIE, pour sauver le climat, notamment pour les industries qui crachent beaucoup de CO2, comme la sidérurgie ou les cimenteries. Des industries, on ne voit pas comment on va réduire leurs émissions très rapidement. En mars dernier, un rapport de cette agence, l'AIE, disait « Si on veut rester sous les 2 degrés, eh bien, il faut stocker 540 millions de CO2 par an d'ici 2025 dans le monde ». Aujourd'hui, on en est bien loin. Seuls 28 millions de tonnes sont stockées.
Merci beaucoup, Sandy Dauphin, et le feuilleton écolo du mardi sur Un jour dans le monde.
France Inter. Un jour dans le monde.
La revue de presse des correspondants de France Inter en Belgique ce soir avec vous, Quentin Dickinson. Bonsoir.
Bonsoir, Fabienne, et bonsoir à tous.
Quentin, vous avez quoi? Un petit problème de mobilité ce soir, non?
Oui, c'est pire que cela. Comme tous les Bruxellois, j'ai un problème de mobilité permanent et un gros problème de déplacement, en effet, depuis ce matin en ville. Car aujourd'hui, voyez-vous, c'est jour de grève générale dans les transports en Belgique et la presse belge a relevé 118 km de bouchons ce matin à Bruxelles, alors qu'on en annonce plus de 200 km en ce moment même, ce qui est tout de même assez inhabituel dans un pays dont 200 km, eh bien, c'est à peu près la longueur totale du nord au sud. Alors, le quotidien, le soir, annonce la couleur. Les autobus restent au garage, un métro au mieux toutes les 20 minutes et les trams au compte-gouttes. Toute la journée, nous dit notre confrère, la petite ceinture de Bruxelles, qui est un peu l'équivalent des boulevards des Maréchaux à Paris, est très fortement encombrée. Et comble de malheur, rapportent tous les médias, alors sans exception du plat pays, il n'y a aucune possibilité de rejoindre le stade Roi Baudouin ce soir pour la rencontre de football tant attendue entre l'équipe de Chypre et l'équipe nationale belge, les vaillants Diables Rouges. Alors, spécialiste de l'actualité par le petit bout de la lorgnette, le journal La Capitale évoque lui aussi le stade Roi Baudouin, mais c'est pour s'insurger contre une montagne de poubelles municipales entassées devant la plaque commémorative du drame du 29 mai 1985, lorsque le lieu s'appelait encore le stade du Hesel, 39 spectateurs morts piétinés par des hooligans anglais.
Voilà, et on retrouve, j'imagine, les mêmes thèmes dans la presse flamande, Quentin.
Oui, absolument, ce sont les mêmes informations, avec parfois des titres dont on ne sait pas vraiment s'il s'agit d'humour ou de conseils avisés. Ainsi peut-on lire dans The Standard « Si le retour ce soir à votre domicile s'annonce encombré, eh bien, restez au travail ». Cette journée aura été aussi celle du discours du Premier ministre belge sur l'état de l'Union. Les médias flamands soulignent que le moment était bien choisi pour annoncer qu'il allait concrétiser enfin le service minimum. Il faut interdire aux syndicats de prendre en otage les travailleurs et les étudiants, a asséné le chef du gouvernement fédéral, le libéral francophone Charles Michel. Et à peine remis de cette journée, c'est la capitale, encore elle, qui l'annonce. Les Bruxellois auront droit cette semaine encore à une grève des éboueurs. Pas sûr que tous apprécient à sa juste valeur la tribune libre que publie le soir aujourd'hui sous le titre « Faire grève, c'est pratiquer la démocratie ».
Quentin Dickinson, merci beaucoup à Bruxelles. L'édito du Monde, c'est maintenant. L'édito du journal Le Monde avec Christophe Ayad ce soir, chef du service international du journal Le Monde. Bonsoir Christophe.
Bonsoir.
Et rien ne va plus donc, Christophe, entre Washington et Ankara, qu'est-ce qui se passe ?
Oui Fabienne, rien ne va plus. La semaine dernière, les autorités turques ont arrêté un employé local du consulat américain à Istanbul. Il a été inculpé pour espionnage et appartenance au mouvement terroriste de Fethullah Gulen, le cerveau présumé du coup d'État raté du 15 juillet 2016. Une inculpation sans fondement, selon le département d'État américain. 4 jours plus tard, Washington a répliqué en suspendant la délivrance de visas depuis la Turquie. Puis, cela a été au tour de la Turquie de suspendre les visas sur le sol américain. Bref, c'est l'escalade.
Et alors la raison, Christophe, de cette escalade ?
L'escalade, Fabienne, d'abord, elle n'est pas nouvelle. Et la rancœur s'accumule entre les deux pays. Depuis le putsch raté de 2016, la guéguerre judiciaire n'a pas cessé d'empirer. Les Turcs ont demandé l'extradition de Fethullah Gulen, réfugié depuis longtemps aux États-Unis, alors que les Américains répondent que les preuves présentées par la justice turque sont insuffisantes. Puis, la justice américaine a inculpé des gardes du corps du président Recep Tayyip Erdogan pour des violences commises contre des manifestants qui protestaient lors de sa visite aux États-Unis. En fait, le fond du problème, c'est qu'Ankara ne comprend pas pourquoi Washington héberge Gulen. Et l'autre raison, c'est le soutien des États-Unis aux Kurdes de Syrie, leur meilleur allié dans la lutte contre Daesh. Or, la principale organisation kurde syrienne est liée au PKK, le Parti des travailleurs du Kurdistan, en guerre contre l'État turc depuis les années 80. Vous me suivez ?
Oui, je vous suis très bien. Alors, les conséquences de cette brouille ?
La principale conséquence, c'est que la Turquie s'éloigne à toute allure de ses alliés occidentaux. Avec l'Europe, cela n'allait déjà pas fort. On le sait depuis que Erdogan a traité Angela Merkel et plusieurs autres dirigeants de nazis. Et il n'est plus question aujourd'hui d'une entrée de la Turquie dans l'Union européenne. Mais avec les États-Unis, les conséquences sont plus importantes au niveau géopolitique. La Turquie, membre essentiel de l'OTAN, est en plein rapprochement avec la Russie de Poutine. Elle vient de confirmer l'achat d'un système de défense anti-aérien S-400 qui n'est pas compatible avec l'Alliance Atlantique. Et cette semaine, Ankara a annoncé une grande offensive en Syrie, toujours avec l'aide de l'aviation russe. C'est totalement inédit et c'est un tournant majeur. Mais ce n'est pas vraiment une surprise. Déjà en 2003, la Turquie s'était opposée à l'invasion de l'Irak par les États-Unis. Peu à peu, et indépendamment de la susceptibilité d'Erdogan, la Turquie s'éloigne de ses amis occidentaux pour retrouver sa place ancienne, celle d'un ancien empire à la charnière entre l'Orient et l'Occident.
Christophe Ayad du journal Le Monde, merci beaucoup, à très vite dans Un jour dans le monde. Le 18-20 continue avec le journal de Sébastien Paour. À la une, la Catalogne évidemment, et puis le téléphone sonne tout de suite après.